Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Trémolo, bonjour.
Salut Gonzalo.
Que vas-tu nous présenter aujourd'hui?
Donc Henry Miller, la renouvelle s'appelle Via Dieppe New Haven. Vous pourriez faire examiner vos bagages pendant ce temps-là. J'entends qu'il me dit cela comme dans un rêve. Je file vers le hangar et ouvre mes bagages. Le train nous attend. On dirait un attelage de chiens esquimaux qui tirent sur leur collier. La locomotive souffle et fume. Finalement, je retourne prendre ma faction devant mon examinateur. Il expédie les quelques voyageurs qui restent. Maintenant, le grand type maigre sort de derrière sa cloison et s'avance, mon passeport à la main. Il a l'air décidé par avance à me prendre pour un malfaiteur. « Vous êtes citoyen américain, monsieur Miller ?»« Évidemment. » Avec cet oiseau-là, je sens qu'il n'y a aucun espoir, il n'y a pas trace d'humour en lui. Donc voilà, un troisième flic qui intervient, c'est de pire en pire. Finalement, il a affaire à un quatrième policier qui, lui, est complètement différent. Il prend soin de lui, il l'emmène dans une prison, enfin dans une cellule, on va dire, pour qu'il passe la nuit. Mais ce qui est, pour moi, le plus important dans cette nouvelle, c'est ce qui se passe quand il va être donc libéré le lendemain matin. Bon, il y a tout un petit passage dans le dialogue avec le quatrième policier sur son livre « Tropique du cancer » où il explique un petit peu qu'est-ce que c'est que ce livre qui va paraître dans les jours à venir. Il me conduisit à bord du bateau et me remit dans les mains du capitaine. Il n'y avait encore aucun passager à bord. Je fis au policeman des signes d'adieu et ensuite j'allais m'installer à l'avant pour avoir un bon coup d'œil sur l'Angleterre. C'était un de ces matins calmes, paisibles, avec des mouettes volant dans un ciel clair. Toujours lorsque je regarde l'Angleterre de la mer, je suis frappé par cette qualité aimable, paisible, somnolente du paysage. L'Angleterre descend si gentiment vers la mer que c'en est presque touchant. Tout paraît si calme, si civilisé. Je restais là à regarder New Haven avec des larmes dans les yeux. Je me demandais où vivait le steward qui, et s'il s'était levé, s'il était en train de prendre son breakfast ou de traîner dans son jardin. En Angleterre, chacun doit avoir un jardin. C'est comme ça, on le sent tout de suite. Je le répète, il n'y aurait pu y avoir de plus belles journées et l'Angleterre n'aurait pu paraître plus jolie, plus avenante que ce matin-là. Je pensais de nouveau au policeman, comme il s'accordait bien avec ce paysage. Je désire qu'il sache, s'il lui arrive jamais de lire ceci, combien, me souvenant de sa gentillesse et de sa délicatesse, je regrette d'avoir eu à chier devant lui. S'il m'était jamais venu à l'idée qu'il allait s'asseoir là et me surveiller du coin de l'œil, je me serais retenu jusqu'au bateau. Je veux qu'il le sache. Quant aux deux autres salauds, je tiens à les avertir ici et maintenant que si jamais je les rencontre de nouveau dans cette vie, je leur cracherai sur la gueule. Et que la malédiction de Job soit sur eux durant le reste de leurs jours, puissent-ils agoniser sur une terre étrangère. Une des plus belles matinées que j'ai jamais vues. Le petit village de New Haven niché dans les falaises de craie blanche, le bout du monde, là où la civilisation glisse doucement dans la mer. Je restais là à rêver longtemps, en une paix profonde qui descendit en moi. Dans de tels moments, il semble que tout ce qui vous arrive pour le mieux. Là, debout, calme et serein, je me mis à penser à notre New Haven, Connecticut, où je suis allé une fois pour voir un homme en prison. C'était un homme qui avait travaillé pour moi, il portait les dépêches, et nous étions devenus amis. Mais un jour, dans une crise de jalousie, il avait tiré sur sa femme, puis sur lui-même. Heureusement, tous deux avaient survécu. J'allais le voir à la prison où on l'avait ramené de l'hôpital. Nous eûmes une longue conversation à travers les barreaux. En sortant de la prison, la beauté du paysage me frappa, et je me décidai brusquement à aller piquer une tête à la plage voisine. C'est l'une des plus étranges journées que j'ai passées au bord de la mer. En plongeant du tremplin, j'eus le sentiment que je quittais la terre pour toujours. Je ne voulais pas me noyer, mais si cela devait m'arriver, je n'en avais cure. C'était merveilleux de plonger loin de la terre, de laisser derrière soi tout ce fumier d'origine humaine que nous glorifions du nom de civilisation. Et, lorsque je revins à la surface, je me mis à nager. Je regardais le monde avec des yeux nouveaux, tout était différent. Les gens me parurent curieusement loin de moi, étrangers. Ils avaient l'air de phoques, se séchant au soleil. Ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient l'air absolument dépourvus de signification. Ils formaient seulement une partie du paysage, comme les rochers et les arbres, et les vaches, dans les prés. Comment avaient-ils pu prendre une importance aussi colossale sur cette terre? C'était pour moi un mystère.
Stand up on end.
petit moment d'épiphanie évoqué par Miller, au moment juste où lui-même part de New Haven. Et puis, je vais te lire les dernières pages de cette nouvelle. Moment où il arrive donc en France, et où il a affaire encore à un officier de police, et où il a quelques lignes sur justement ce trajet, cette aventure, cette mésaventure, et au sens qu'il donne à tout cela.
Thank you. slow train car. A slow train coming, slow train gone.
Quand tout fut en règle, et que mon passeport et ma carte d'identité furent de nouveau à l'abri dans ma poche, je lui proposai respectueusement d'aller boire un verre ensemble au bar en face. Il accepta très gracieusement mon invitation, et nous nous dirigeâmes négligemment vers le bistrot, devant la gare. Il me demanda si je vivais à Paris. Un peu plus intéressant que ce trou, hein, ajouta-t-il. Nous n'avions pas le temps d'entamer une longue conversation, le train devant partir dans quelques minutes. Je pensais qu'à la fin, il me dirait « Comment donc vous êtes-vous mis dans d'aussi sales draps ?» Mais non, pas la moindre allusion. Nous revînmes sur le quai et lorsque la locomotive siffla, nous nous serrâmes cordialement la main et il me souhaita bon voyage. En m'asseyant, je vis qu'il était encore là. Il agitait la main et me dit de nouveau « Au revoir, monsieur Miller, et bon voyage !» Cette fois, le monsieur Miller me sonna agréablement aux oreilles et me parut parfaitement naturel. En fait, il me parut si agréable et si naturel que les larmes m'en vinrent aux yeux. Oui, tandis que le train sortait de la gare, deux grosses larmes roulèrent le long de mes joues et tombèrent sur mes mains. Je me sentis de nouveau en sûreté, parmi des êtres humains. Le bon voyage tintait dans mes oreilles. Bon voyage ! Bon voyage ! Une légère brune tombait sur la Picardie, assombrissant les toits de chaume, accentuant le vert des prairies. De temps à autre, apparaissait un lambeau d'océan avalé aussitôt par les ondulations des dunes de sable, puis par les fermes, les prairies et les ruisseaux. Une campagne silencieuse, paisible, où personne ne s'occupe des affaires des autres. Soudain, je me sentis si merveilleusement heureux que je voulus me lever et crier ou chanter. Mais je ne pouvais penser qu'à ce bon voyage. Quelle phrase ! Toute notre vie, nous nous heurtons ici et là en marmottant cette phrase que nous avons empruntée aux Français. Mais le faisons-nous jamais, ce bon voyage ? Comprenons-nous que même lorsque nous allons au bistrot ou chez l'épicier du coin, c'est un voyage où peut-être nous pourrions ne pas revenir? Si nous sentions cela profondément, que chaque fois que nous sortons de notre maison, nous nous embarquons pour un voyage, peut-être que cela rendrait nos vies un peu différentes. Pendant que nous faisons un petit voyage au coin de la rue, ou à Dieppe, ou à New Haven, ou n'importe où, la Terre aussi fait un petit voyage. Personne ne sait où, même pas les astronomes. Mais tous, que nous allions au coin de la rue ou en Chine, nous faisons un voyage avec notre mère la Terre. Et la Terre accompagne le Soleil, et avec elle les autres planètes, Mars, Mercure, Vénus, Neptune, Jupiter, Saturne, Uranus. Tout le firmament se meut. Et si vous écoutez attentivement, vous entendez « Bon voyage, bon voyage !» Et si vous restez tranquille, comme une souche, et ne posez pas un tas de questions idiotes, vous comprendrez que faire un voyage est seulement une idée. Que la vie elle-même est un voyage dans un voyage. Et que la mort n'est pas le dernier voyage, mais le commencement d'un nouveau voyage. Personne ne sait pourquoi, ni où. Mais bon voyage, de toute façon. Je voulais me dresser et chanter cela en ut mineur. L'univers entier m'a paru comme un réseau de routes, certaines profondes et invisibles, comme le sillage des planètes. Et, dans cette vaste errance aérienne, dans ce passage fantomatique d'un royaume à un autre, je voyais tous les êtres animés et inanimés se faisant signe l'un à l'autre. Le cafard au cafard, l'étoile à l'étoile, l'homme à l'homme et Dieu à Dieu. Tous en route pour le grand nulle part. Mais bon voyage tout de même. De l'osmose au cataclysme, tout un vaste, silencieux et perpétuel mouvement. Rester tranquille dans cet immense mouvement fou, se mouvoir avec la terre de quelque côté qu'elle penche, se joindre au cafard, aux étoiles, aux dieux, aux hommes, ça c'est voyager. Et quelque part, dans l'espace où nous nous mouvons, où nous laissons nos traces invisibles, là, il est possible que j'entende un jour un léger, un sarcastique écho, une petite voix anglaise gluante, anémique, me demander incrédule « Allons, monsieur Miller, vous n'allez tout de même pas me dire que vous écrivez aussi des livres de médecine ?»« Mais si, bon Dieu, maintenant, je peux le dire avec une claire conscience, oui, monsieur personne de New Haven, oui, j'écris aussi des livres de médecine, des livres merveilleux qui guérissent tous les maux du temps et de l'espace. En fait, je décris maintenant, à ce moment exact, le seul grand purgatif de la conscience humaine. » Le sens du voyage. Et comme je m'imaginais l'imbécile de New Haven, tendant l'oreille pour mieux m'entendre, une grande ombre indistincte se plaça devant lui et l'effaça. Et comme je me demandais où donc ai-je vu cette tête, la réponse me vint comme un éclair. L'homme avec la moustache à Dieppe, cette tête que j'avais vue quelque part, je la reconnaissais maintenant. c'est celle de Mark Twain. C'était lui le grand méchant loup, et Charlot Sanson. C'est tout, je voulais simplement mettre ça au point dans ma tête. Et bon voyage à tout le monde. Wishing there's a window, I wish I had a view. I look across the rooftop and see what others do. When you and me, would you agree? Life is just a moment that lovers never see. Oh my friend, the journey's end with no more time. A life to spend, I ought to know. I can't let go to get me alive, get me alive. Find yourself an hour and spend it in the queue. But no one seems to notice where it's leading to. I don't believe, I don't agree. It reminds me of a picture you never let me see. Oh my friend, journey's end with no more time or lives to spend. I ought to know, but can't let go to get me light, get me light. Play God, take me away, take me to the water, take me to the bay. Play God, take me away, give me light, give me light. I'd clean the chandeliers. Oh, I don't believe, and I will not fall. And I promise to baby, so invite me to the ball. Oh, my friend, the journey's end with no more time or lives to spend. To get a little light, get a little light. Play God, take me away, take me to the water, take me to the bay. Play God, take me away, get a little light, get a little light. Play God, take me away, take me to the water, take me to the bay.
Nous sommes dans un taxi et pendant qu'il roulait, Marat, tout à coup, me grimpa dessus et m'enfourcha. Il s'ensuivit un baisage forcené. Le taxi embardait et donnait de la bande. Nos dents se heurtaient, mordaient des langues et le jus coulait de Marat comme une soupe chaude. Comme nous longions une place de l'autre côté de la rivière, juste au lever du jour, je surpris au passage le coup d'œil ébahi d'un flic, le temps d'un éclair. « C'est l'aube, Marat, » dis-je, essayant doucement de me dégager. « Attends, attends !» supplia-t-elle, haletant et se cramponnant à moi furieusement. Et sur ces mots, elle eut un orgasme à n'en plus finir, au point que je crus qu'elle allait me décaper le vide. Finalement, elle me laissa, s'effondra dans son coin et demeura là, sa robe retroussée au-dessus des genoux. Je me penchais pour l'embrasser encore, et ce faisant, caressais de la main son cou tout trempé. Elle s'agrippait à moi comme une sangsue, s'abandonnant frénétiquement, et son cul frétillait et glissait comme une truite. Je sentais le jus brûlant dégouliner à travers mes doigts. Je la travaillais de quatre doigts, fourgonnant la mousse humide et fourmillante de spasmes électriques. Elle eut encore deux ou trois orgasmes, et puis elle retomba, épuisée, me souriant faiblement, pareille à une biche prise au piège. Voilà donc un extrait de Sexus. Alors là, Charles Ficard, on est au cœur du dispositif millérien, c'est-à-dire le portrait accru et totalement objectif de l'activité sexuelle. Parce que ce type de scène, on les retrouve partout, dans Au jour tranquille à Clichy,
Tropique
du cancer. Ce sont des scènes qui, évidemment, ont été censurées comme étant pornographiques, mais qui représentent justement la volonté millérienne de dire la chose, je dirais, dans sa nudité, c'est le cas de le dire, dans sa pauvreté, son intégrité absolue.
Oui, et c'est en cela qu'il est novateur. Tout à l'heure, Jean-Baptiste essayait d'évoquer l'aspect... justement créatif de personnalités comme celle dont on parle ce soir, là, Zappa ou Miller. Et sans doute, Miller a été un des premiers au XXe siècle à décrire de manière aussi crue, aussi brutale, aussi directe, aussi franche, les scènes d'amour. Sur Miller, Miller, il avait déjà une raison personnelle d'en vouloir à l'Amérique, c'est que ses livres ont été censurés. C'est quand même quelqu'un qui a été victime d'une censure et ses livres ont été interdits d'exploitation. Donc, quand on connaissait sa situation matérielle, je pense que ça lui aurait quand même été profitable de pouvoir vendre quelques-uns de ses ouvrages. Mais dans le procès qu'il dresse de l'Amérique, il y a ce qu'on a évoqué déjà, mécanisation, déshumanisation, mais il s'en prend aussi à la guerre civile, à l'esclavage, il y a toute l'histoire américaine, le Ku Klux Klan, la mafia, ça revient par des évocations à travers des textes tout au long de son œuvre.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette nouvelle ?
Écoute, je vais te lire une petite citation de Miller. « À quoi servent les livres s'ils ne ramènent pas vers la vie, s'ils ne parviennent pas à nous y faire boire avec plus d'avidité ?» Moi, c'est ça que j'ai ressenti, une façon d'aller boire la vie, d'aller boire cette anecdote. Et ce qui me plaît aussi chez Miller, de manière générale, c'est sa liberté de ton, sa liberté d'humeur aussi. Il est en colère, il est exalté. Et... je trouve qu'il n'est jamais aussi grave que quand il est léger, et il n'est jamais aussi philosophe que quand il se veut simplement un simple chroniqueur de ce qu'il raconte de sa vie actuelle.
Trémolo, merci.
Merci à toi. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Moustaki, c'est mon frère.